Il est 7h.
Nous avons, à la sortie du confinement, 18 millions de personnes qui sont à risque d'être contaminées et de continuer à développer une forme grave.
18 millions de personnes fragiles qui pourraient rester à la maison le 11 mai, notamment les plus âgées. Pour la première fois, le nombre d'hospitalisations en baisse, ça se confirme dans les services d'urgence en Île-de-France.
On a beaucoup moins de patients qui présentent la maladie du Covid-19 qu'on accueille aux urgences. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas intubé un seul patient.
13h tout à l'heure, Amazon fermera tous ses sites français pour 5 jours, le temps de réévaluer les mesures sanitaires après le rappel à l'ordre de la justice. Les États-Unis face au risque d'effondrement de l'économie, ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré. Et puis, vous n'avez peut-être pas beaucoup dormi cette nuit ou vous avez eu beaucoup de mal à vous réveiller, des troubles du sommeil très répandus.
On a beaucoup de mal déjà de 1 sans dormir. On s'endort en général rarement avant 3h30, 4h du matin. Sachant qu'en plus de ça, comme on est confiné, on tourne vite en rond.
Et votre invité à 7h40, Mathieu.
Vous en parliez, Frédéric Duval, le patron d'Amazon France, à nouveau sur Europe 1, alors que l'entreprise américaine a annoncé hier la fermeture de ses sites français pour 5 jours. Ils doivent faire le tri pour ne pas distribuer que des produits de première nécessité. C'est une exclusivité Europe 1 ce matin. Frédéric Duval à 7h40. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h01 sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pas question d'imaginer que le 11 mai, ce sera tout le monde dehors. Il faut relativiser la date annoncée lundi soir par Emmanuel Macron. Des millions de Français pourraient bien rester confinés. Alors, qui sera concerné? Réponse du professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique.
Les personnes qui sont les plus à risque de développer une forme grave, ça va rester. Ce sont les personnes d'un certain âge, donc au-dessus de 65 ou de 70 ans. Ce sont les personnes qui ont des affections de longue durée, qui ont des multipathologies, insuffisance respiratoire, cardiaque, etc. Et puis ce sont des sujets jeunes, ayant une pathologie, mais aussi obèses, puisque vous savez que c'est un facteur de gravité pour les formes graves. Alors, tout ça, ça fait 18 millions de personnes. Donc, de toute façon, numérique ou pas numérique, nous avons, à la sortie du confinement, 18 millions de personnes qui sont à risque d'être contaminé et de continuer à développer une forme grave.
Le professeur Delfraissy hier devant la commission des lois du Sénat. Ce matin, la directrice générale de Korian, numéro 1 européen des maisons de retraite, lance un cri d'alarme dans le Figaro. On ne peut infliger de telles mesures de séparation plus longtemps. Sophie Boissard réclame des solutions pour rétablir les liens entre les résidents et leurs proches. Elle propose par exemple des visites en plein air, pourquoi pas en présence de volontaires qui seraient testés.
On espère que c'est un tournant. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, il y a plus de sorties que d'entrées à l'hôpital. Dans le même temps, pour la 7e journée consécutive, le nombre de patients en réanimation est en baisse.
Oui, en Île-de-France, région la plus touchée, les hôpitaux commencent à la ressentir, cette amélioration. Jean-Jacques Herry.
Le premier signe d'amélioration, il se voit dans les services d'urgence, qui sont la porte d'entrée des malades hospitalisés. Pour Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, les chiffres nationaux viennent confirmer ce qu'il voit depuis quelques jours.
On a beaucoup moins de patients qui présentent la maladie du Covid-19 qu'on accueille aux urgences, qu'on hospitalise. Souvent, on devait intuber 4, 5, voire 8 patients par jour. Et là, ça fait 3 jours qu'on n'a pas intubé un seul patient. On revoit des patients qui viennent aux urgences pour autre chose que du Covid. Donc, on a bien cette impression d'être sur un plateau légèrement descendant.
Conséquence, il y a moins de monde en réanimation, même si les services restent très engorgés. L'espoir renaît, constate Xavier, infirmier. Les équipes peuvent un peu souffler, mais très vite, ils nuancent.
On note vraiment un ralentissement et une diminution des patients en réanimation. Par contre, on s'aperçoit que des patients qu'on avait sortis il y a quelques jours nous reviennent, se réaggravent parfois. Malgré tout, il y a encore des patients qu'on n'arrive pas à améliorer.
Ces patients-là ne sont pas sauvés, ils ont encore besoin de temps, souffle-t-il. Ensuite, il leur faudra beaucoup de rééducation et de réadaptation, car la maladie laisse des séquelles.
À 8h15, le professeur Steg, chef du service cardiologie à l'hôpital Bichat et coprésident du comité de pilotage spécial Covid-19 au sein de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il sera l'invité de Sonia Mabrouk. 8h15 donc, il répondra ensuite à vos questions. 3921 et le hashtag Radio Ouverte.
Tout le monde a évidemment retenu cette date du 11 mai, d'autant qu'elle doit signer le début du retour à la maison pour plus de 12 millions d'élèves. Comment Emmanuel Macron a-t-il pris sa décision? Le président prend régulièrement conseil auprès de scientifiques, mais on le sait moins, Michaël Darmon, il s'appuie aussi sur un autre comité beaucoup plus discret.
Oui, c'est un comité composé de maires. Ils sont une vingtaine à la tête de villes des quatre coins du pays, de Beauvais dans l'Oise, à la Seyne-sur-Mer dans le Var ou encore Poissy dans les Yvelines. Des édiles réunis en conférence téléphonique chaque semaine autour du ministre du Logement, Julien de Normandie, très proche d'Emmanuel Macron. C'est une façon pour l'exécutif de prendre régulièrement le pouls du pays pendant le confinement. La semaine dernière, ils ont été unanimes sur la nécessité de reprendre l'école le plus tôt possible. Ils ont mis en avant le risque de décrochage scolaire, dû notamment aux inégalités face au numérique. Des maires qui ont convaincu Emmanuel Macron. Je peux vous dire qu'une nouvelle réunion de ce comité extrêmement discret aura lieu ce matin. Ils doivent continuer à discuter de la réouverture des marchés ou de la reprise des activités sportives individuelles en journée. En s'appuyant sur les maires, le chef de l'État adapte la méthode qui lui avait réussi après la crise des Gilets jaunes. Un grand débat, mais cette fois à distance.
Votre fait politique, Mickaël Darmon, tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
7h06, dès aujourd'hui, Amazon ferme tous ses sites en France pour 5 jours. Mesure radicale décidée hier après la décision de justice qui a obligé le géant américain à arrêter les livraisons de produits non essentiels.
5 jours, le temps de nettoyer les sites et d'évaluer les risques face à l'épidémie. Comment ça va se passer exactement, Clément Le Saffre ?
Alors cela concerne les 6 centres de distribution d'Amazon en France. Ils fermeront leurs portes aujourd'hui à 13h et ne rouvriront que mardi matin, avec la menace d'une amende d'€1 million par infraction à l'interdiction de vendre des produits non essentiels. Le risque était trop élevé pour continuer l'activité, a indiqué Amazon. La direction va désormais évaluer, avec les représentants du personnel, l'efficacité des mesures mises en place pour protéger les salariés. Une décision forte, saluée par Laurent Degouzé, délégué de la Fédération Sud-Commerce.
Amazon consent manifestement à se mettre en mode pause. Ils admettent que s'ils n'avaient pas pu procéder à une évaluation sérieuse des risques auxquels les salariés étaient confrontés, c'est parce que c'était incompatible avec la poursuite de l'activité. Donc moi je dis banco, profitons de cette pause pour discuter. Tout le monde fournit des efforts, donc c'est Amazon d'en fournir à son tour.
Et le manque à gagner lié à ces fermetures est colossal pour Amazon. En temps normal, un seul entrepôt peut traiter en une journée jusqu'à 170 000 produits. Sur 5 jours, les pertes se chiffrent donc en millions d'euros. Les 10 000 salariés et intérimaires concernés, eux, vont être mis au chômage partiel et payés à 100% de leur rémunération. Enfin, côté consommateur, il sera toujours possible de passer commande sur Amazon, mais uniquement auprès de vendeurs tiers qui utilisent le site pour vendre leurs produits.
Clément Le Saffre.
Et on dit qu'entre 80 et 90% de l'activité Amazon serait touché, le directeur général Amazon France Frédéric Duval, en direct, en exclusivité sur Europe 1 à 7h40.
Et puis retour progressif au travail pour les salariés de l'usine Toyota de Valenciennes à partir du 21 avril. La production à l'arrêt depuis la mi-mars va reprendre avec des horaires aménagés et des mesures sanitaires strictes.
Des primes, en voulez-vous ? En voilà. Le gouvernement va les distribuer d'ici à la fin du mois de mai pour les ménages les plus modestes, mais aussi pour remercier tous ceux qui se retrouvent en première ligne face au coronavirus.
Oui, le personnel soignant, des hôpitaux et des EHPAD, mais aussi les fonctionnaires, comme Europe 1 vous le révélait hier matin, jusqu'à 1 000 euros net pour 400 000 d'entre eux. Les collectivités locales pourront également verser une prime à leurs agents, c'est le maire qui décidera.
Et bonjour Agnès Lebrun.
Bonjour.
Vous êtes maire de Morlaix, porte-parole de l'Association des maires de France. Les maires donc, c'est ma première question évidemment, vont-ils se saisir de cette prime, la verser aux agents mobilisés? Et à travers cette question évidemment, les municipalités en ont-elles les moyens?
Ce sont les deux questions. La première, c'est effectivement les maires sont toujours favorables à ce qu'il y ait de la reconnaissance de ce que font leurs agents, puisque leurs agents assurent les missions essentielles du quotidien et les élus, évidemment, sont toujours sur le terrain pour cela. Maintenant, comment reconnaître celui qui a fait plus que l'autre? Ça me semble être une question assez dangereuse, parce qu'un menuisier ne choisit pas de ne pas pouvoir faire de télétravail. Effectivement, certains en ont fait davantage et il faudra discuter dans un dialogue social intelligent pour savoir qui est éligible et qui ne l'est pas. Et après, effectivement, la deuxième question, c'est qui paye? C'est-à-dire que, évidemment, avoir des bonnes idées avec l'argent des autres, c'est toujours très, très facile. Enfin, c'est bienvenu parfois, ça peut donner des idées. Mais enfin, au bout du compte, celui qui va signer le chèque, on n'en sait pas beaucoup aujourd'hui. Le Premier ministre a indiqué qu'il voulait le faire en lien avec les maires. Mais en lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui décide, qui donne l'argent, qui... Nous aimons quand on nous laisse faire ce que nous savons faire. Et lorsqu'on nous donne l'argent qui nous est dû. Et pour le reste, on se débrouille. Quand on nous donne la ligne générale, on est toujours au rendez-vous. On le sera toujours pour assurer, encore une fois, la cohésion des territoires et la cohésion nationale et sociale. Mais en revanche... nous aimerions avoir sur ce sujet, comme sur tant d'autres, quelques précisions, on va dire,
oui,
ça gentiment.
Oui, qui va payer d'abord, évidemment. Qui est éligible aussi, vous l'avez dit, hein, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont au télétravail, à qui elle peut être versée, on va suivre. Merci beaucoup Agnès Lebrun, maire de Morlaix et porte-parole de l'Association des maires de France, en direct ce matin sur Europe 1.
Un nouveau record pour le nombre de décès aux États-Unis, plus de 2500 en 24 heures, le plus lourd jamais enregistré par un pays. Donald Trump affirme malgré tout que le pic des nouveaux cas est probablement passé.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Cette crise sanitaire aux États-Unis fait chuter les marchés financiers mondiaux. Ils redoutent une mise à l'arrêt de la première économie mondiale.
Oui, et deux indices ne trompent pas. D'abord, les grandes banques américaines viennent d'annoncer les unes après les autres, cette semaine, qu'elles constituaient des provisions massives de dizaines de milliards de dollars pour faire face à la crise qui arrive. Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, l'explique très bien. Nous devons faire des réserves car nous allons très probablement connaître une récession sévère. Le patron de Goldman Sachs parlait hier d'effondrement de l'économie. Et puis, deuxième indice, c'est le pétrole. Malgré l'accord historique entre les producteurs pour réduire la production, eh bien, les cours continuent de chuter. Pourquoi ? Parce que les marchés anticipent une longue récession.
Et c'est donc ce qui fait plonger la bourse ?
Oui, chute de 3,7% du CAC 40 hier, plongeon de près de 5% de la bourse de Milan. Mais c'est surtout du côté des États-Unis que l'on s'inquiète et que l'on ne voit pas de retour à la normale avant de longs mois. La production industrielle américaine a subi en mars sa plus forte chute depuis 70 ans. Les investisseurs s'attendent à ce que les profits des 500 plus grandes entreprises cotées à Wall Street subissent un recul encore plus important que lors de la crise financière de 2008. Et puis, il y en a un que ces sombres perspectives boursière et économique inquiète particulièrement, c'est Donald Trump. À Wall Street, en effet, rares sont ceux qui parient sur une reprise avant l'élection présidentielle du 3 novembre.
L'éclairage éco de Nicolas Barré tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Et Donald Trump promet de dévoiler sa feuille de route aujourd'hui pour un redémarrage progressif de l'économie. La crise a fait près de 17 millions de nouveaux chômeurs en 3 semaines.
Plus de réveil à heure fixe, des soirées à regarder des séries. Pour beaucoup d'entre nous, le confinement est synonyme de sommeil perturbé.
Et oui, il y a aussi la peur du lendemain, peur d'être malade, de perdre des proches, mais aussi de perdre son travail. Tout ça nourrit les angoisses qui peuplent nos nuits. Stéphane Place a joint des insomniaques.
Fermeture, confinement, depuis pour Laura et son mari qui tiennent un restaurant à Paris, des nuits compliquées. Habitués à de longues journées de travail, avec des horaires décalés, les voici chez eux, dévorés par les soucis liés à l'avenir de leur commerce.
Le stress des fermetures, le stress de la trésorerie et surtout l'attente au niveau des banques. Donc oui, on a beaucoup de mal déjà de 1 sans dormir. Quand on ne se réveille pas en plein milieu de la nuit, c'est qu'on s'endort en général rarement avant 3h30, 4h du matin. Sachant qu'en plus de ça, comme on est confiné, on tourne vite en rond.
Conserver ses habitudes, dormir mais pas trop non plus, le professeur Pierre Philippe dirige la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux.
Le premier message, c'est tenir le rythme en se levant tous les jours à la même heure et idéalement en prenant de la lumière dès le lever, c'est-à-dire en s'exposant à la fenêtre ou en allant dans son jardin si on a la chance d'avoir un jardin, de façon à ce que votre horloge biologique reste bien calée en respectant un horaire de coucher raisonnable, bien entendu, en limitant l'exposition aux écrans, mais aussi en limitant toute source d'information qui peut majorer l'anxiété, créer un sas de 1 à 2 heures avant le coucher, justement, pour ne pas s'exposer à des phénomènes anxieux.
L'hygiène du sommeil, indispensable pour ne pas sortir complètement désynchronisé du confinement. Bordeaux, Romain Nouquet, Stéphane Place, Europe 1.
Et vous savez, ce qui apaise, c'est la musique. Un an tout juste après l'incendie de Notre-Dame, les 160 choristes de la maîtrise de Notre-Dame tenaient eux aussi à marquer ce triste anniversaire. Chacun chez eux, ils ont enregistré leur partie de ce titre « The Lord is my shepherd » et ils l'ont publié hier soir sur les réseaux sociaux.
Incroyable, hein ? Incroyable de se rendre compte qu'ils sont tous isolés et qu'on rassemble ça en musique. Merci Hélène Zélani.